Nous allons reprendre, si vous voulez bien. Et aujourd'hui, notre invité est Pierre Skuntjes, qui est professeur à l'université de Gand, où il enseigne la littérature française. Pierre Skuntjes a commencé, je le connais depuis longtemps, parce que ses premiers travaux étaient sur Proust et sur l'ironie, avec un livre qui compte sur l'ironie dans la recherche du temps perdu, publié en 1993. À la suite de quoi, il a, pendant un certain nombre d'années, travaillé sur l'ironie et publié, par exemple, une poétique de l'ironie en 2001 au Seuil. Mais il y a eu une inflexion dans ses travaux, je ne sais pas comment cela s'est produit, qui l'a mené de l'ironie à la Première Guerre mondiale. Et il a donc travaillé beaucoup sur la littérature de la Première Guerre mondiale. Les travaux ont donné lieu à un nombre important de volumes collectifs publiés en général chez Droz à Genève, dans une collection de l'université de Gand. J'en cite deux, La Grande Guerre, un siècle de fiction romanesque, un siècle de fiction romanesque, ce qui nous suggère en effet que Pierre Skuntjes s'intéresse à la littérature de la guerre jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au dernier prix Goncourt, j'imagine. Il s'intéresse à la littérature contemporaine notamment, et donc à tout ce qui s'est fait sur la guerre de 14, puisque la guerre de 14 représente un genre en soi aujourd'hui dans la littérature française contemporaine. Il s'est intéressé donc à la Grande Guerre jusqu'à aujourd'hui, mais il s'est intéressé à partir de la Grande Guerre à d'autres écritures de la guerre et à d'autres écritures de la violence. Sur la Grande Guerre elle-même, ses travaux sont repris dans un ouvrage de synthèse qui est intitulé « Fiction de la Grande Guerre », publié en 2008 au classique Garnier. Aujourd'hui, il nous a donné comme titre « 14-18 en littérature, une guerre pour les dire toutes ». Eh bien, cela rejoint donc cette préoccupation que je disais de montrer que cette Grande Guerre est bien la matrice ou le modèle de toute cette écriture de la guerre au XXe siècle et peut-être encore au XXIe siècle. Vous avez la parole.
Merci, cher Antoine Compagnon. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir et un honneur de parler ici. Antoine Compagnon parlait tout à l'heure de l'inflexion qui a fait que je suis à un certain moment passé de l'ironie à la guerre. Il y a un rapport avec ce lieu-ci. J'ai eu un grand-père qui a fait la Seconde Guerre mondiale, mais qui a été très marqué par la Première Guerre mondiale, dont il m'a fait lire les textes quand j'étais très jeune adolescent. Il venait suivre lui-même les cours de bachelor ici. Il était ingénieur, il faisait ici. Et donc parler ici, pour moi, c'est aussi me souvenir de ce grand-père qui me montrait cet endroit comme un endroit où il était venu, comme vous êtes ce soir. Voilà pour l'inflexion. Alors, une guerre pour les dire toutes, avec le point d'interrogation, bien sûr. Je vais essayer, dans les 40 minutes qui suivent, de vous donner un certain nombre de repères autour de cette Première Guerre mondiale, mais je vais déborder au-delà. Les repères, il va y en avoir de deux types. Je vais m'arrêter à deux registres très généraux et je vais passer ensuite à deux stratégies dans la narration, essentiellement dans des fictions, puisque je me suis d'abord, moi, intéressé aux fictions. Je vais suivre différents mouvements. Je vais d'abord parler du mouvement qui va de l'expérience de la guerre à la pratique de la littérature. Ensuite, je vais m'interroger sur la manière dont, dans les textes qui parlent de la guerre, la littérature apparaît, transparaît en filigrane. Et puis, je vais faire, avec des textes auxquels vous ne vous attendez pas, et moi, je ne m'y attendais pas non plus, je vais regarder le mouvement inverse, voir comment, de la littérature, de la lecture, on peut, quand on est militaire du moins, passer à la guerre. Je conclurai sur l'impuissance ou sur le pouvoir de la littérature autour d'une réflexion beaucoup plus générale sur l'humanisme. Voilà à peu près le programme. Les deux grands registres sur lesquels s'est écrit la Première Guerre mondiale sont bien connus. C'est d'une part le registre pacifiste, c'est celui qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Les couvertures l'illustrent très bien. Vous voyez, pour prendre deux des livres les plus visibles dès cette époque-là, hein, Barbuse et Dorgelet, ces livres sont toujours aujourd'hui disponibles en livre de poche. J'ai mis en regard deux autres livres qu'on classe d'habitude parmi les livres, alors il faudrait entrer dans les nuances que je ne vais pas faire ici, nationalistes, patriotiques, voire héroïques, Adrien Bertrand et Raymond Escolier, qui avaient une grande visibilité aussi à l'époque, et qu'on ne peut plus se procurer. Je veux tout de suite dire que ces livres sont beaucoup plus intéressants et moins caricaturaux qu'on a coutume de le dire. En particulier, Bertrand et Escolier méritent qu'on y revienne et sont loin d'être la caricature qu'on peut retrouver, par contre, chez un René Benjamin. J'utilise les guillemets autour de pacifiste et autour de nationaliste. Pourquoi ? Parce que souvent, il est très, très difficile, quand on se place dans la perspective de l'écrivain, du moins au moment où il est en train de rédiger, de dire « voilà, c'est un texte dont l'intention est pacifiste, voilà, c'est un texte dont l'intention est nationaliste », il entre énormément de réceptions dans le sens qu'on a donné à ces termes, et il faut moduler ça avec énormément de nuances, ce que je ne peux pas faire ici, mais c'est surtout vrai pour le registre nationaliste, qu'on a beaucoup trop vite tendance à discréditer de manière générale. Quelle est la littérature qui m'a intéressé ? La littérature d'abord des tranchées, pas la littérature de l'arrière, pas la littérature du retour des soldats, et je me suis consacré essentiellement aux textes qui parlent du front occidental. Quel est le grand intérêt de la guerre de 14-18 ? Explique le grand engouement qu'il y a aujourd'hui autour de 14-18. Ce n'est pas uniquement une question d'anniversaire, il y a des anniversaires qu'on oublie. Cet anniversaire-là, on ne l'a pas oublié. Pourquoi ? Eh bien, parce que cette Première Guerre mondiale, dans la lecture que nous en faisons aujourd'hui, est une guerre qui permet à, disons, la République, à la France, de communier dans le souvenir, dans l'image d'un soldat victime d'une guerre absurde. Alors, évidemment, pour les soldats de l'époque, cette guerre, ils n'étaient pas uniquement victimes, ils étaient acteurs. Le soldat est là d'abord pour se battre et pas pour se faire tuer. Et guerre absurde, il y a fort à parier qu'ils ne partageraient pas cette opinion, c'est-à-dire que la guerre, ils savaient pourquoi ils l'avaient commencée, quand bien même il était découragé, l'absurdité de la guerre ne lui apparaissait pas nécessairement. Et « the war to end all wars », la der des der, était évidemment une raison de faire la guerre qui n'a rien d'absurde. Je passe sur l'enjeu idéologique qui, en effet, a été largement oublié, le militarisme prussien, l'esprit de la revanche, et évidemment l'opposition durable, en fait, dans nos mentalités, entre culture en Allemagne, et civilisation. Donc, je pense que la Première Guerre mondiale est intéressante pour nous parce qu'elle permet d'aborder la guerre de manière plus dépassionnée que d'autres guerres autour d'une position morale, éthique qui rassemble. Il est très difficile de faire ça aujourd'hui en Belgique ou en France autour de 40-45 et je ne dois pas vous dire que c'est peut-être plus compliqué encore dès qu'on touche aux guerres de décolonisation. L'unité se fait beaucoup plus difficilement. Le registre dominant sur lequel nous avons pris l'habitude de lire la Première Guerre mondiale est le registre pacifiste. Pour nous, aujourd'hui, un bon livre de guerre est un livre contre la guerre. La plupart des textes héroïques ont été oubliés. Martial Lequeux, franciscain belge, qui a écrit « Mes cloîtres dans la tempête » et qui se montre se battant au corps à corps avec un Allemand, je lui décharge mon pistolet en pleine figure, alors je m'élance, pris d'une fièvre dans le cataclysme. Vive le roi, je perds tout sentiment de la réalité, c'est un rêve brûlant qui passe dans ma fatigue, etc. C'est un type de discours qui n'est plus recevable aujourd'hui. Alors même qu'après-guerre, ce livre était vendu à autant d'exemplaires que Barbuse et Dorgelès. Les deux registres coexistaient à cette époque-là. Ce qui est très intéressant, c'est de constater que le registre héroïque, pour nous, ne peut se dire qu'avec un décalage dans la perspective. On oublie trop souvent que The Seven Pillars of Wisdom de T.A. Lawrence, mes étudiants en tout cas l'oublient, parle évidemment de la Première Guerre mondiale. Et là, il est tout à fait possible d'envisager la lecture, aujourd'hui encore, d'un discours héroïque. La charge contre Aqaba, par exemple, hein, très célèbre dans The Seven Pillars of Wisdom, est une description qui reste héroïque. Si vous la transposiez dans la Première Guerre mondiale sur le front d'Occident, ça serait beaucoup plus difficile à dire. Maintenant, je veux dire tout de suite qu'il ne faut pas non plus imaginer le discours héroïque, la pratique littéraire héroïque, comme quelque chose de caricatural. En particulier dans le cas de Lawrence, je vous signale qu'il y a une forme d'auto-ironie très marquée chez Lawrence, puisque lors de cette très célèbre charge contre Aqaba, il tue son chameau de la cinquième balle de revolver qu'il tire, ce qui le fait, et le terme est chez lui, valdinguer, le petit chameau est à gauche en bas, et Lawrence, en arabe, est en train de voler en haut. Il dit lui-même, quand il voit les illustrateurs qui, en 26, illustrent son livre, « It's good that someone is decent enough to find Lawther in a stuggy mess of mock heroism, egotism. » Là aussi, l'héroïsme, il n'y a pas une forme d'écriture héroïque. J'aurais pu prendre un autre exemple, mais on va vous en parler la semaine prochaine. L'héroïsme peut par exemple aussi se dire avec le décalage des nations. Il est assez caractéristique que l'exemple du discours héroïque de la guerre accepté en France aussi vienne d'Allemagne, puisque c'est Junger, évidemment, avec en particulier le Buchto 128. On vous en parlera la semaine prochaine. Il va de soi que ce héroïsme a pu continuer, par exemple, dans le cinéma. Hein, le célèbre film de David Lean gomme tout à fait cette dimension ironique du récit héroïque pour ne retenir que l'héroïsme pur. Vous connaissez tous cette image. Deux modes d'écriture, deux stratégies. Deux stratégies, une qui met en avant les passions, l'autre qui met en avant la raison. L'écriture la plus connue, celle qui a perduré le plus longtemps, est celle qui se sert des passions. On la retrouve très clairement chez Jean Giono. Il s'agit pour l'écrivain pacifiste, j'utilise toujours les guillemets, hein, de montrer les horreurs de la guerre, de les montrer dans le détail, le petit bruit du craquement du rat qui mange un œil sur le cadavre, le montrer dans le détail, avec l'espoir que, une fois que le public aura été confronté à ce type de scène, la guerre sera honnie pour toujours. Je prends un extrait de Jean Giono. Hein. Un soldat blessé, il pataugeait à deux mains dans son ventre ouvert comme dans un mortier. Ses poings faisaient le moulinet, ses tripes attachaient ses poignets. Il s'arrêta de crier, il était tout empêtré dans ses tripes. Nous sommes dans ce qu'on a pu appeler le gothique de champ de bataille. Ça peut aller jusqu'à une forme de pornographie de la violence, ou certains lecteurs, en tout cas, ça demande à être précisé, peuvent éprouver une forme de plaisir aussi par rapport à cette horreur. L'efficacité est-elle avérée ? Eh bien, Jean Giono lui-même a des doutes. Et quand il revient sur sa pratique d'écriture dans ses écrits pacifistes, hein, il dit que quand il évoquait ces pages et ces événements avec ses amis, quand il fait sentir, dit-il, l'odeur des morts, quand il fait voir les ventres crevés, et c'est une allusion très directe au passage que je viens vous lire, il avait très rapidement raison, son auditoire lui disait immédiatement, c'est le groupe du Contadour, non, plus jamais ça. Mais en même temps, il doit reconnaître immédiatement que le lendemain, et je cite, « quand nous reprenions notre place dans le régiment civil bourgeois, c'était fini. Au bout de 3 jours, l'indignation était tombée. » L'efficacité de cette stratégie littéraire n'est pas certaine, et vous savez parfaitement que l'ensemble de la production littéraire pacifiste qui montre l'horreur après 14 a été incapable d'empêcher la Seconde Guerre mondiale. Cette tradition, elle s'est poursuivie. C'est le mode essentiel, selon s'écrit aussi depuis 1980, qui marque le moment où le roman français s'est massivement, plus de 130 romans depuis 1980, plus de 130 romans ont été consacrés à 14-18, bien avant déjà la période des anniversaires. C'est le registre dominant et on le retrouve là, tout récemment, dans le dernier prix Goncourt, chez Pierre Lemaître, hein, qui montre aussi des centaines de corps en décomposition, dont l'odeur pestilentielle vous monte au cœur toute la journée. À la première accalmie, des rats gros comme des lièvres cavalent avec sauvagerie d'un cadavre à l'autre pour disputer aux mouches les restes que les vers ont déjà entamés. Hein, on a cette volonté de montrer l'horreur du champ de bataille. Évidemment, aujourd'hui, on ne prétend plus montrer l'horreur pour dénoncer la guerre. La dénonciation, elle est faite depuis longtemps. On s'inscrit dans une tradition d'écriture. Et Pierre Lemaître n'est pas du tout dans l'outrance. Je pourrais vous donner des passages qui le sont bien plus et qui sont bien plus complaisants et font bien plus appel à notre voyeurisme, qui ressemble un peu à cette tentation que nous pouvons avoir quand nous voyons des accidents le long de la route. L'autre tradition est une tradition qui ne fait pas appel aux passions, mais qui, tout en étant soucieuse de garantir la paix, essaye de mettre en avant la raison. On en trouve l'expression très développée chez Alain, et en particulier dans « Mars ou la guerre jugée », qui refuse explicitement de regarder du côté du cadavre. Je ne me propose pas d'étaler ici des cadavres et des blessures. Il va refuser cela dans un discours où il va utiliser les passions contre les passions. Cette tendance est bien moins visible et nous en avons moins d'exemples. Ça a moins plu. Mais il y a un texte, malheureusement trop peu visible, d'un écrivain qui n'a pas du tout laissé un nom important dans l'histoire de la littérature, qui est Pierre Chêne dans les Mémoires d'un rat. Pierre Chêne dans les Mémoires d'un rat raconte les tranchées à partir de la perspective d'un petit rat, pour ceux d'entre vous qui lisent des bandes dessinées, un peu comme le fait aujourd'hui Petit Luc, qui met en scène des petits rats philosophes. En fait, l'ancêtre très direct, c'est Chêne. Et qu'est-ce que Chêne dit ? Eh bien, lui aussi va refuser de montrer les cadavres. Il va dire pourquoi. À quoi bon ces descriptions malsaines puisqu'elles n'ont pas le pouvoir de supprimer les guerres ? Il y a eu, avant cette guerre, il existait déjà sur ce sujet des descriptions réalistes et ceux qui les avaient lues ont été surpris par la réalité. La représentation du cadavre est inefficace et en plus, poursuivra Chêne, elle est psychologiquement fausse parce que ce ne sont pas nécessairement les horreurs les plus grandes qui nous font le plus mal. Parfois, des petites scènes anodines peuvent être beaucoup plus douloureuses. Chêne développe cela et développe toute une réflexion éthique aussi dans ce petit livre. Cette tradition-là, eh bien aussi, aujourd'hui, nous en retrouvons des traces, et là encore dans un ouvrage récent, chez Jean Echenoz, qui va mettre en scène de la manière suivante la mort d'un d'un homme, un quatrième obus percutant de 105, mieux ajusté, a produit de meilleurs résultats dans la tranchée. Après avoir disloqué l'ordonnance du capitaine en 6 morceaux, quelques-uns de ces éclats ont décapité un agent des liaisons, cloué Bossis par le plexus à un étai de sape, haché divers soldats sous divers angles et sectionné longitudinalement le corps d'un chasseur éclaireur. On a aussi un corps mutilé. Mais vous voyez que l'esthétique à travers laquelle Jean Echenoz fait ça, la distance ironique qu'il instaure, oui, ne fait pas du tout ce que faisaient les textes pacifistes, mais crée une distance qui, en plus, ici, rejoint très consciemment une esthétique qui est celle des angles et des découpages et qui est une esthétique cubiste, évidemment, dont Jean Echenoz veut s'inspirer. Voilà pour les grands repères en guide d'introduction. Je passe maintenant à la question de la guerre, le mouvement qui va de la guerre à la littérature. Vous avez entre-temps eu très souvent l'occasion d'aborder Barbuse, qui est peut-être, qui a été pendant longtemps en tout cas, le livre qui a servi de support au discours républicain sur la guerre. C'est, par exemple, Camus a découvert la guerre, dans laquelle il a perdu son père aussi, à travers la lecture de Dorgelès. Et jusqu'à ma génération, même chez nous en Belgique, nous lisions au lycée Dorgelès, qui, pour les enseignants, avait cet avantage par rapport à Barbuse de ne pas être devenu communiste, ce qui posait problème pour certains. Dorgelès est l'auteur le plus connu, qui cherche à rendre donc hommage à ses combattants. Mais vous savez aussi, le nom est tombé dès le premier cours d'Antoine Compagnon, vous savez aussi que ces grands écrivains combattants, dans lesquels s'étaient reconnus les soldats qui avaient fait la guerre, ont été violemment pris à partie à la fin des années 20 par Norton Cru, qui est particulièrement sévère pour Barbuse et Dorgelès, pour tous les écrivains, en somme, qui ont une notoriété comme littérateurs. Il dit ils ne donnent pas d'effets vérifiables parce qu'ils ont conscience de parler de ce qu'ils ne connaissent pas. Et pour Norton Cru, il est impossible de bien dire, de joliment dire, dans une belle langue littéraire, ce qu'on accordait généralement au moins à Dorgelès, l'horreur de la guerre. Pour lui, le bon témoin s'oppose au bon écrivain. Le bon écrivain est celui qui écrit à la limite mal. D'où cet amour pour la lettre naïve que Antoine Compagnon signalait tout à l'heure. À partir du moment où il y a des procédés littéraires, eh bien, la valeur de témoignage est moindre pour Barbuse. Vous imaginez que pour Barbuse et Dorgelès, pour tous les grands écrivains qui avaient la renommée à ce moment-là, cette attaque a été très dure à soutenir. Et ils ont cherché à se défendre. Il y a eu une polémique qui a été d'ailleurs très très bien étudiée. Et la première chose sur laquelle ils ont souhaité mettre l'accent, c'est sur leur temps au front, sur leur expérience réelle de la guerre. Et sur le mode de la prétérition, où, en le disant franchement, ils mettent en avant leurs blessures, leur temps de front, leurs citations. Dorgelès, par exemple, disant « engagé volontaire, décoré deux fois, blessé, il n'aurait jamais osé, dit-il, écrire les Croix de Bois s'il n'avait pas vécu dangereusement avec mes camarades du 39e les épisodes des Croix de Bois. » Mais en même temps, ces gens qui ont vécu la guerre ont des ambitions littéraires. Et à l'époque, le carnet, la correspondance, n'avait pas le statut littéraire qu'il peut avoir aujourd'hui. Et du coup, ils veulent aussi être artistes. Ce qu'on trouve très bien sous la plume d'André Trérive, un ami de Dorgelès, qui réagit à la publication de Témoins, et qui souligne ceci, le témoignage de 100 000 Tartempions, le soldat de base qui tient ses petits carnets, qui écrit à sa femme, ne vaut pas la demi-fiction conçu par un grand homme. Voilà. L'écrivain peut mieux que quiconque rendre compte de cette expérience. C'est ce que Duhamel, le mot que Duhamel va utiliser, c'est réaliser la souffrance, réaliser la douleur, au sens de réaliser son capital. C'est pour ça que j'emploie le mot réaliser, il vient de chez Duhamel. Maintenant, quand Dorgelès va réagir à cette polémique avec Norton Crue, hein, il va essayer de préciser sa position. Il va dire « J'ai incorporé dans le récit imaginaire des éclats de vérité. » Voyons, on est déjà dans autre chose. « Ce n'est pas un roman, ce ne sont pas des choses vues, c'est en quelque sorte de la réalité recréée. Hein » Donc, on voit qu'il y a un flottement entre l'exactitude du vécu et le produit littéraire final. Ça, c'est en 1929. Mais en 1920, sa position était légèrement différente. Il a écrit une préface à un ouvrage écrit par un musicien, je passe là-dessus, et cette préface est très intéressante parce que c'est cette même préface qu'il va retravailler 10 ans plus tard pour répondre à Norton Crue. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Il va être assez critique par rapport à tous ces gens qui tiennent des petits carnets, ces soldats de base, ces tartempions. Les véritables écrivains, en dépit de ce que certains lecteurs ont cru, ont rarement dépeint ce qu'ils avaient vu. Ils ont transposé, ils ont recréé. Je dois déclarer que je n'ai vécu aucun des épisodes des Croix de Bois. En 1920, il se moquait des soldats de base qui tenaient leur petit carnet. Et il dit ceci, il notait quelques détails d'un intérêt saisissant, comme on a tous acheté des petits melons en arrivant d'Angueux, Kerbiou a été nommé sergent, mais Camus a été tué, j'ai le talon qui saigne parce que ma chaussure est trop juste. Il se moque, je pourrais vous lire toute la page, il se moque de ces gens qui tiennent ces petits carnets, de ces illettrés ou à peine lettrés qui tiennent ces petits carnets. Mais qu'est-ce qu'on va lire en 1929 quand il retravaille exactement le même texte ? Il parle de ces mêmes soldats tartempions et il dit ceci. Ils trouvaient encore le courage d'inscrire sur leur tablette, avant de s'endormir, ce qu'ils croyaient être des faits saillants de leur journée. J'ai le talon qui saigne, etc. Vous voyez que d'un moment à l'autre, hein, le changement de position est énorme. En 1920, Dorgelès cherche à se poser comme artiste. En 1929, il cherche à rassembler autour de lui les anciens combattants. Il fallait d'abord la légitimité artistique, mais puis après, une fois que Norton Crue l'avait mis en cause, eh bien, il s'agit de rassembler le plus largement possible. Et cela donne des choses très étranges sur l'apport entre vécu et littérature. En 1920, dans ce même texte, il écrivait « Je dois déclarer que je n'ai vécu aucun des épisodes des Croix de Bois. » Et dans les souvenirs, en 29, il dit « J'ai dangereusement vécu avec mes camarades du 39e les épisodes des Croix de Bois. » Hein ? Vous voyez que l'évolution peut être évidente. Ce n'est pas de la malhonnêteté intellectuelle. Simplement, il interprète sa propre œuvre et il relie à la vue des événements son propre comportement. Voilà donc pour un mouvement du vécu de la guerre à l'écriture de la littérature. Maintenant, la question qui se pose, et je n'oublie pas que parmi les tout premiers travaux critiques que j'ai lus figurait la seconde main d'Antoine Compagnon, qui parle de citation, qui a été publiée juste avant que je commence mes études de lettres. Et c'était une autre époque où on s'intéressait beaucoup plus aussi aux questions d'autoréflexivité de la littérature. Je voudrais en dire un mot dans ce contexte-là. Vous savez tous que la position du soldat de base, à l'époque de Renouvin, grand historien de la Première Guerre mondiale, ancien combattant lui-même, l'expérience du soldat de base était considérée comme sans intérêt. Et l'exemple qu'on donnait traditionnellement, parce que ça fait partie du savoir littéraire en France, hein, ça se trouve chez Renouvin et chez toute une série d'autres historiens, hein, on sait de longue date que pour faire l'histoire de Waterloo, il est inutile de questionner Fabrice. Fabrice, n'ayant eu une vue que trop limitée de Waterloo, il ne peut pas vous raconter Waterloo. C'est Ce lieu commun, cette vérité générale qu'on retrouve encore aujourd'hui dans nos histoires de la littérature, hein, a été fortement prise à partie par Norton Crue, qui s'insurge contre le fait que le soldat d'infanterie qui fait la guerre serait précisément celui qui peut le moins vous apprendre la guerre. Il est profondément choqué par cette attitude. Il refuse ça, il dit non, c'est lui qui le sait. Et d'ailleurs, tout son travail est basé sur le fait de mesurer l'expérience des écrivains combattants à l'aune de sa propre expérience vérifiable, concrète, matérielle. Et il va évidemment revenir sur Fabrice à Waterloo, et il va en faire une lecture qui va contre ce que nous avons l'habitude de voir dans ces pages de Fabrice à Waterloo. Il est incapable de prendre ça à la lettre, de prendre ça littéralement comme un témoignage d'un soldat qui ne comprendrait pas ce qui se passe. Il dit non, ce que Stendhal a fait là, c'est une farce, une charge, une caricature. Ouais. L'idéal héroïque, je le cite, l'idéal héroïque se heurtant à la réalité laide et méchante. Sa lecture de Fabrice à Waterloo, et ce n'est pas ce que vous retrouviez dans le Lagardy-Michard, est pour Norton Crue un récit absurde où Stendhal exerce son humour. Pas du tout un témoignage authentique vécu de Waterloo. Si on reprend en détail, et je ne peux donner que quelques indications, la chartreuse de Parme, on peut se demander, en effet, souvent présenté, Stendhal, militaire, il n'était pas à Waterloo, mais on oublie, militaire, donc expérience de la guerre, on peut s'interroger sur la valeur de témoignage, et on peut se demander si Norton Crue n'a pas peut-être raison, et si on trouve des arguments peut-être littéraires pour soutenir la lecture que fait Norton Crue. Et si on va voir dans des lectures que Stendhal a pu faire et parmi les auteurs qu'il affectionnait particulièrement, eh bien, on trouve un chef-d'œuvre de la littérature romantique ironique, mais qui est tout simplement un chef-d'œuvre de la littérature mondiale, malheureusement peu lu aujourd'hui en France, qui est le Don Juan de Byron, et dans lequel on trouve des pages où il est possible de retrouver toute une série de perspectives, mais jusqu'à des phrases complètes qui ont pu inspirer Stendhal. Et exactement comme le suggère Jean Norton Crue, hein, le Don Juan est un récit ironique où un anti-héros fait l'expérience de la guerre. On peut le montrer presque point par point. On a dans les deux cas un héros naïf qui ne comprend pas ce qui lui arrive, qui prend de la lâcheté pour de l'héroïsme, et inversement. On peut le montrer de manière philologique. J'ai eu l'occasion de le faire dans un article, je ne vais pas le développer ici. Par où on voit, et on le voit dans de très très nombreux textes, par ailleurs encore, que sous-jacent à l'écriture d'une expérience de la guerre, il y a évidemment toujours le souvenir de la littérature. Et Claude Simon a très bien réfléchi à cette question à partir justement d'une page de Stendhal dans La vie de Henri Brulard. À un certain moment, vous connaissez tous, sinon le passage, du moins la gravure, Stendhal écrit comment il passe le col du Grand Saint-Bernard avec les armées napoléoniennes. Et puis, il s'arrête d'écrire et il dit « Non, ce que je suis en train de faire, c'est non pas d'écrire ce que j'ai vécu, mais c'est d'écrire une gravure que j'ai vue de Napoléon passant le col du Grand Saint-Bernard », et il arrête. Et Claude Simon va embrayer sur cette remarque de Stendhal, il va lui faire la leçon, il va dire « Si Stendhal avait mieux réfléchi encore, il se serait rendu compte, et je cite Claude Simon, qu'il ne décrivait même pas cette gravure, mais une image qui se formait alors en lui et qui prenait encore la place de la gravure qui se figurait d'écrire. » Et, observe Claude Simon, évidemment, on est bien loin du miroir impartial à travers lequel on définit le réalisme de Stendhal. Nous écrivons et nous vivons à travers des images qui ne correspondent pas nécessairement à notre vécu, mais qui se sont imposés à nous. Et il est certain que pour la Première Guerre mondiale, nous avons tous, écrivains ou pas, ces images en nous. Je vous en donne un exemple très très clair immédiatement, qui va vous montrer que, ainsi que le dit Claude Simon, la littérature a la capacité de faire que des images viennent se superposer, que des choses se rapprochent qui normalement n'auraient jamais dû se rapprocher. Claude Simon souligne d'abord que, évidemment, il y a une grande différence entre le vécu et la littérature. Le mot « sang » n'est pas du sang, le mot « feu » n'est pas le feu. Mais, dit-il, dans une perspective très proustienne, les mots possèdent ce prodigieux pouvoir de rapprocher et de confronter ce qui, sans eux, resterait épars. Et si nous prenons une page du livre qui a sans doute rendu visible pour la première fois auprès du grand public, avec Tardy en bande dessinée, le livre qui a rendu visible la Première Guerre mondiale auprès du grand public, en 90, Jean Rouault, Les Champs d'honneur, Jean Rouault va décrire une attaque, l'attaque de gaz à Steenstraat, pour dire que, je le cite, « nous n'avons jamais vraiment écouté ces vieillards de 20 ans, écroulés, recroquevillés, que la mort ramassera bientôt, piétinés par les plus vaillants qui tentent, main au-dessus de la tranchée, de se hisser au dehors, de s'extraire de ce grouillement de ver humain. » Quand nous lisons ce passage-là, d'un point de vue réaliste, j'ai eu l'occasion d'en discuter à l'époque déjà avec Jean Rouault, qui n'en était pas conscient à cette époque-là, quand nous lisons ce passage-là, nous ne pouvons pas voir des images de tranchées, des vers humains dans les tranchées. Le ver humain implique une espèce de nudité qu'on n'a évidemment pas dans la Première Guerre mondiale. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'insu même au moment où il l'écrivait de Jean Rouault? Est venu se superposer sur l'écriture de 14-18, l'écriture de la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Et ce que nous voyons là, c'est à l'évidence, maintenant que nous le voyons, hein, c'est une image qui est l'image de l'ouverture des chambres à gaz de la Seconde Guerre mondiale. Donc simplement, la littérature permet cette superposition d'images que ne permet rien d'autre. Et évidemment, parfois consciemment, parfois inconsciemment. Jean Rouault prend maintenant lui-même cet exemple pour montrer comment un certain héritage parle à travers lui. Je prends maintenant le chemin inverse et je regarde comment on peut aller de la littérature à la guerre quand on se base ou quand on se situe dans une perspective qui est celle de l'action, quand on se situe dans la perspective qui peut être celle d'un militaire. Je trouve que trop souvent nos univers académiques, intellectuels sont trop séparés d'un certain nombre d'autres milieux, et en particulier, je pense que notre conversation, notre dialogue, par exemple avec des militaires, une fois qu'on parle de guerre, n'est pas assez régulier. Ça tient évidemment au fait que les orientations idéologiques et les choix esthétiques ne sont pas les mêmes et que, évidemment, les militaires peuvent avoir, sur le pacifisme aujourd'hui largement accepté, d'autres vues. Je prends un livre alors qui est vraiment aux antipodes des écrivains qu'on cite habituellement ici et des autres que j'utilise. Je vous rappelle un ouvrage qui a été très fréquemment lu dans les années 60 de Jean Lartégui, qui met en scène dans Les Centurions un personnage qui s'appelle Raspégui, mais qui est là pour Bijard, évidemment, votre tout grand militaire, qui réfléchit justement à 14-18. Il fait parler donc ce personnage sur 14-18 en lui faisant dire que Verdun, ça a été de la boucherie stupide et inutile. Et à travers tout le roman, Raspégui montre que le soldat est quelque chose d'infiniment précieux et qu'on ne peut pas envoyer, comme on a fait en 14-18, des soldats à une mort certaine, comme dans l'offensive du chemin des Dames, par exemple. Et il prend le vocabulaire qui était celui de 14-18 et qu'on retrouve chez Duhamel, par exemple, qui s'insurge aussi contre ce mot, le matériel humain. Le mot est chez Duhamel aussi. Le matériel humain, j'y crois pas. Je suis même contre, drôlement contre. Je ne sais pas ce que c'est Verdun. Et alors il va poursuivre qu'est-ce que c'était Verdun. Les délires collectifs, comme Verdun, très peu pour moi. Et c'était ça, peut-être, Verdun. Maintenant, il se trouve que l'Artegui a été lu par David Petraeus, le général des forces armées américaines, qui a trouvé dans le livre de l'Artegui certaines des pensées clés pour mettre en place ce que l'armée américaine ne faisait absolument pas dans une perspective de guerre froide qui imaginait des batailles de chars en Europe, à savoir penser ce que les Français appelaient la guerre contre-révolutionnaire et que les Américains nommeront COIN, Counter-Insurgency. Et Petraeus a eu l'idée de toute une série de changements à opérer dans la conduite des forces américaines à partir de la lecture des centurions. He also devoured Jean Lartigue's best-selling novel The Centurions, whose hero, Raspeggi, was clearly modeled on Bijard. Ce livre, il va l'acheter, une fiction. Il va l'acheter, il va l'offrir aux officiers qui l'entourent pour leur faire comprendre à quel point la littérature, cette littérature qui, évidemment, revient sur un vécu militaire colonial, peut servir à repenser la manière de faire la guerre. Et il y a un passage en particulier qu'il cite très, très volontiers. Les références étaient sur la page précédente. Quand il regarde la manière dont les Français font la guerre par rapport à la manière dont les Vietnamiens font la guerre, nous autres, en faisant la guerre, nous jouons à la belote avec 32 cartes dans la main. Eux pratiquent le bridge, donc en Indochine, eux pratiquent le bridge, ils ont 52 cartes, 20 cartes de plus que nous. Ces 20 cartes qui nous manquent nous empêcheront toujours de l'emporter. Elles n'ont plus aucun rapport avec la guerre traditionnelle et sont marquées du signe de la politique, de la propagande, de la foi, de la réforme agraire. Ce qu'on a ici, c'est l'influence ponctuelle sur un lecteur, mais un lecteur évidemment qui n'est pas n'importe qui. Je vous rappelle que des gens comme Petraeus sont non seulement formés à West Point, mais qu'ils ont des diplômes de Princeton en sciences humaines. Ce ne sont pas les caricatures qu'on veut parfois faire d'eux. Ce livre a clairement eu une influence très concrète sur notre monde réel. Et à la lecture de ce livre-là, se sont ajoutées d'autres lectures d'œuvres littéraires, alors sans doute plus intéressantes que l'Artegui d'un point de vue littéraire aussi. Par exemple, T.A. Lawrence, à nouveau, une expérience là de la Première Guerre mondiale, avec cette image très forte, T.A. Lawrence qui pense la guerre contre-révolutionnaire, écrite à partir d'un point de vue des insurgés. Il dit de cette guerre que c'est une guerre sanglante et difficile, aussi difficile que de manger, que de boire une soupe avec un couteau. L'image est très très forte. Et là aussi, c'est un texte qui a très très fort influencé Petraeus. D'autres écrivains pourraient entrer dans cette liste, mais ils ne sont pas immédiatement ramenés à la littérature. Alors, qu'est-ce qu'on voit, évidemment, à ce moment-là? C'est que, évidemment, la littérature, est impuissante à empêcher la guerre. Je veux dire, c'est évident, posé en ces termes-là, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais, évidemment, on ne doit pas en déduire pour autant que la littérature, même de fiction, est sans effet aucun sur la conduite du monde. Alors, pour revenir à ma question initiale, qui était, est-ce que à travers le 14-18, est-ce que c'est une guerre à travers laquelle on peut les penser toutes? Sans doute que non, parce qu'elle est trop œcuménique dans la lecture qu'on en fait, qu'il y a une spécialisation dans la guerre. Mais elle est quand même très intéressante pour les raisons suivantes. Les romans, en particulier, qui les mettent en scène, évidemment, n'empêche pas la guerre de survenir. Mais il est certain qu'elles exercent une influence sur le public. Et là, c'est peut-être ce que les historiens vont regretter, parce qu'on sait le poids que nous accordons à la vérité historique. Ces fictions exercent malgré tout une influence, et il faut le constater, en dehors même de leur valeur comme témoignage. La volonté de Norton Crewe était de classer les textes selon leur valeur de témoignage, mais force est de reconnaître que Max Deauville, qui est un écrivain belge auquel il accorde le premier prix, qui vient d'être réédité, je l'ai réédité il y a quelques années aussi, est toujours un nom tout à fait inconnu, alors qu'il semblerait être un des meilleurs témoins, alors que nous parlons toujours de Barbusse et d'Orgelès. Les deux ne sont donc pas liés. Troisième chose que je veux souligner, c'est que le sens de ces fictions dépend bien sûr des intentions des écrivains, mais qu'on ne peut jamais s'arrêter à ça, parce que la manière dont ces livres sont reçus influe très fort sur leur sens. On pourrait montrer ça sur la réception à l'Ouest, rien de nouveau, de remarques sur la génération de l'entre-deux-guerres. À l'Ouest, rien de nouveau, de remarques sera lu par des gens qui deviendront et qui entreront malgré tout dans le nazisme, alors même qu'ils ont lu ça, tout simplement parce que, constatant la vie pendant la République de Weimar, ils ont dit « il vaut peut-être mieux encore faire la guerre que d'être au chômage, de crever la faim comme nous crevons la faim aujourd'hui ». La même chose vaudrait, par exemple, pour les films pacifistes. Tous les films pacifistes sur la guerre du Vietnam sont écrits, je l'ai dit automatiquement, tous les films sur le Vietnam sont écrits dans une position pacifiste. Il n'empêche que nous avons un grand nombre de témoignages qui montrent que les soldats qui vont se battre lisent, regardent ces films comme des excitants avant le combat et que le message pacifiste est tout à fait oublié pour eux. Lisez ou relisez Swofford, Jarhead, un très bon livre sur la première guerre du Golfe. Qu'est-ce que ces fictions de guerre sur 14-18 permettent par contre de faire à partir du moment où elles ont trouvé une forme originale pour dire ce conflit? Eh bien, c'est de problématiser de manière nouvelle des enjeux éthiques et politiques. La manière dont nous racontons des histoires nous invite à telle ou telle lecture plutôt que telle ou telle autre. Et il n'est pas indifférent de choisir pour une perspective qui met en avant les passions, pour une perspective qui met en avant la raison. On devrait nuancer et compléter le panorama, mais je pense que là, la littérature a un rôle à jouer. Et un rôle à jouer sur la manière dont nous imaginons et nous définissons l'humanisme. Et je vais terminer sur deux citations qui montreront, je pense, assez bien l'enjeu. La première citation est extraite de Romain Rolland, le grand écrivain pacifiste exilé en Suisse, qui publie « Au-dessus de la mêlée », un recueil de textes publiés à divers moments. Et qu'est-ce qu'il constate ? Il constate le bombardement de Louvain, un peu comme Claude Simon constatera plus tard le bombardement de la bibliothèque de Leipzig dans la route des Flandres. Qu'est-ce qu'il dit ? « Louvain n'est plus qu'un monceau de cendres. Louvain, avec ses trésors d'art, de science, la ville sainte, et il s'adresse aux Allemands, aux intellectuels allemands qui ont cautionné la guerre. Mais il dit, mais qui êtes-vous ? Êtes-vous les petits-fils de Goethe ou ceux d'Attila ? Est-ce aux armées que vous faites la guerre ou bien à l'esprit humain ? Tuez les hommes, mais respectez les œuvres. C'est le patrimoine du genre humain. Vous en êtes, comme nous tous, les dépositaires. L'art subsume ce qu'il y a de véritablement humain dans l'homme, et à ce titre, il est plus important de défendre l'art et de protéger l'art et de conserver l'art que de conserver des vies individuelles. Quand je propose quand je montre ce texte à des étudiants, à un public plus jeune, ils s'insurgent, ça leur semble très éloigné. Ils disent « mais non, il faut sauver les vies humaines et pas l'art ». Mais je vous signale que si vous pensez à la réaction massive de la presse européenne lors de la destruction des Bouddhas de Babylone, c'est à ça évidemment que nous sommes. Mais c'est parce qu'on pense ce sont des autres qui se tuent. On ne tue pas des Français. Bah, laissons-les s'entretuer, mais qu'on ne touche pas au Bouddha de Bamiyan. À l'opposé de cette position-là, on lit chez Proust une autre conception de l'humanisme, mise en scène dans un contexte que je n'ai pas le temps de détailler ici. Ne sacrifiez pas des hommes à des pierres dont la beauté vient d'avoir justement fixé un moment des vérités humaines. Je pense que nous sommes obligés, et la littérature peut nous y aider, à penser notre humanisme entre ces deux choix, et je pense que la littérature peut y contribuer. Je vous remercie.
Nous avons seulement quelques minutes pour débattre, pour discuter, mais vous avez abordé tellement de choses dans cet exposé, depuis les premiers textes, les premiers témoignages, les controverses sur le témoignage et sur la littérature de guerre, jusqu'à la guerre en Irak et en Afghanistan, que beaucoup, beaucoup de sujets pourraient être évoqués. Je soulèverai juste un certain nombre de points. Dans la distinction initiale que vous nous avez proposée entre texte pacifiste qui semble avoir été reconnu par la postérité et qui semble constituer le corpus privilégié de la littérature de la Première Guerre mondiale, et texte héroïque ou nationaliste, dans cette dichotomie que vous nous avez présentée, texte héroïque et nationaliste ignoré, oublié, je pensais quand même, dans la littérature française, un certain nombre de textes importants, mitoyens. D'abord, des grands textes comme L'équipage de Kessel, toute la question des aviateurs. Les aviateurs comme les nouveaux chevaliers de la Première Guerre mondiale. Il n'y a pas que la guerre de tranchées, il y a la guerre héroïque. Et le livre de Kessel, L'équipage, publié en 1925, est un livre qui a fait beaucoup de bruit, justement, parce que voilà un livre qui mettait en cause cette dichotomie et qui est restée l'une des grandes œuvres. Mais on pourrait penser aux œuvres de Marin. Il y a des guerres héroïques dans la Première Guerre mondiale. Et puis, à côté de Junger, il y a des textes comme ceux de Monterland, que je citais tout à l'heure dans le cours, Le Songe, où on trouve beaucoup de cet orgueil héroïque. Je citais le refus des lettres. Le refus des lettres était typique de cette conception d'une guerre. Et puis, il y a aussi, dont je crois que je ne l'ai pas cité aujourd'hui, de manière très périphérique, mais qui est à mes yeux très important, des textes comme ceux de Drieu-La Rochelle, chez qui on retrouve. Donc, un petit peu d'incertitude sur cette... Il y a des textes héroïques qui font partie du corpus littéraire français. Peut-être que ce sont des textes un peu plus compliqués que les textes du nationalisme que vous citiez, des textes un peu plus compliqués, un peu plus confus, mais la littérature est souvent confuse et compliquée. Et il n'y a pas que Junger.
Non, vous avez évidemment tout à fait raison, et on pourrait poursuivre la liste. Il y a Drieu, il y a en effet Kessel l'équipage, il y a Monterland, il y aurait aussi Conan, il y aurait Vercel, il y a toute une série de livres. La seule chose que j'ai voulu dire, c'est que ces textes-là n'ont absolument pas... Alors, ils sont très intéressants, je les ai étudiés, certains d'entre eux en tout cas, ils sont très intéressants, mais ils n'ont d'aucune manière la même visibilité. Ce que j'ai voulu dire, c'est que c'est l'usage, surtout, qu'on a fait, par exemple, de Dorgelès à l'école, etc., qui a, quelque part, figé l'image de la Première Guerre mondiale dans le soldat victime. Et il est évident... que, par exemple, dans Le Songe, il y a des choses très, très intéressantes, mais il y a des choses très intéressantes aussi chez Cocteau qui sont beaucoup plus ambiguës. Il y a une caractéristique, je pense, toutefois, dans la littérature française, c'est que le problème qui se pose et qui a joué pour la canonisation, c'est qu'il n'y a pas, on n'a jamais reconnu de grandes valeurs littéraires aux textes qui sont issus de la Première Guerre mondiale. Quand on prend la situation en Angleterre, les war poets constituent un grand moment de l'histoire littéraire de l'Angleterre. Et ce sont des textes pacifistes. En France, on n'a rien d'équivalent. Et c'est sans doute aussi ce qui explique que très longtemps, on ne se soit pas intéressé à ces textes. Très, très souvent, on ne cite que Céline, parce qu'on a les premières pages du voyage qui parle de 14-18, et là, on a un très grand écrivain qui parle de 14-18. Le cas, évidemment, pourrait se poser différemment en poésie, puisque là, on a des exemples, mais ce ne sont pas du tout... ce n'est pas du tout équivalent aux war poets. Donc, c'est surtout là-dessus que je voulais insister. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il n'y a pas des textes tout à fait intéressants qui ne sont pas les textes nationalistes dont j'ai parlé. Mais quand nous lisons maintenant Monterland et que nous voyons des scènes où il rapproche violence et sexualité en l'exaltant, ce sont des choses qui sont beaucoup plus difficilement recevables pour un large public que les discours pacifistes qui met en avant le soldat victime. Mais il est évident, en particulier pour l'image de l'aviateur héroïque, qu'on a ça. Mais je pense que même que, par exemple, Jung est plus présent dans le débat intellectuel que Kessel.
Oui, mais enfin, il est sans doute moins lu.
Oui.
Sans doute moins lu. Kessel reste un livre...
J'ai lu ça adolescent.
Je connais pas les statistiques de vente, mais... Kessel était traditionnellement un livre d'adolescent. Junger, plus difficilement.
Certainement.
Oui, alors, comme le temps nous est compté, il y a juste sur un autre point sur lequel je voudrais vous interroger, intervenir. Ce sont ces, à l'autre bout de votre grand arc, les lectures de Petreus, les lectures de l'Artegui par Petreus, et cette influence de la littérature sur la guerre. Bon, on peut d'abord rappeler que lors de la guerre du Vietnam, au début des années 60, les Américains n'ont pas attendu Petreus pour s'intéresser à la guerre d'Indochine de très près. Dans les débuts des années 60, lorsqu'ils sont allés au Vietnam, leur attention a été très fortement portée sur ce que les Français avaient fait en Indochine. C'était moins loin, donc ils n'avaient pas besoin de la littérature pour faire le détour, mais c'était là d'emblée et de toujours. Et on voudrait ajouter, avec les mêmes effets désastreux, c'est-à-dire que ce passage, que ce soit par l'expérience française en Indochine ou par la littérature, a mené à la guerre du Vietnam telle qu'on l'a connue dans les années 60 et à la guerre en Irak ou en Afghanistan qui laisse... Qui en tout cas ne plaide pas pour cette influence de la littérature, fut-elle l'Artegui.
Oui, non, ça c'est certain. Ce qui m'a fait intéresser ici, c'est que je n'imaginais pas, mais là de nouveau, nous parlons tous à partir de notre passé, de notre position. Quand j'ai découvert ces lectures-là, je n'imaginais pas ça. Et alors en plus, quand j'ai vu les évolutions qu'il y a pu y avoir entre, par exemple, la manière dont un Westmoreland parlait de littérature ou ne parlait pas de littérature et dont Petreus le faisait, j'étais étonné. Mais vous avez raison, l'affluence est assez ancienne. Ouais. Et ce que je pense surtout, ce qui est très intéressant dans cette question-là, c'est que la littérature permet de penser la guerre dans un contexte éthique aussi. Comme nous racontons des histoires très brèves, beaucoup de pages littéraires illustrent très bien des principes que met en avant Michael Walzer, par exemple, dans Just and Unjust Wars. Je pense que la littérature aide à penser quelque chose qui a mauvaise réputation, qui est la casuistique, la jus in bellum, donc le droit à la guerre ou le droit dans la guerre. La littérature nous aide à penser ces situations très concrètes pour imaginer une position intermédiaire entre le pacifisme, le refus absolu de la guerre, ou le réalisme, à partir du moment où on fait la guerre, bien, on doit tuer des gens et tout est permis dans la guerre. Et entre les deux, il y a cette pensée dont Michael Walzer est devenu le tenant le plus visible, « Just and unjust wars », qui nous oblige à penser à chaque moment les actions. Et là, je pense que la littérature a un vrai rôle à jouer. C'est dans cette espèce d'ouverture d'éventail-là que je voulais l'inscrire.
Très bien. Je crois qu'on est obligé d'arrêter, mais vous avez donné là une très large ouverture de compas à ces questions. Et vous avez fait ce que j'attendais, c'est-à-dire nous ramener à cette littérature française, à ce genre qui va de Rouault à Echenoz au prix Goncourt de cette année, qui montre la très forte présence de cette matrice de la Première Guerre mondiale dans la littérature française. Merci beaucoup.
Merci à vous.